RFI. Grand reportage.
Les anciens racontent toutes sortes de légendes sur les aurores boréales. Ce seraient nos ancêtres. Ils dansent, ils sont heureux. Ils nous voient vivre, survivre, lutter, élever nos familles et être forts. Ce serait pour ça que les aurores apparaissent pour danser. Il existe différentes histoires. Celle de chasseurs qui n'arrivent pas à retrouver le chemin de la maison. Alors une vieille dame jette de l'eau en l'air, la lumière passe à travers et c'est comme ça que les lumières du Nord ont commencé. Comme elles vont d'est en ouest, les chasseurs ont pu retrouver leur chemin.
L'histoire que vous venez d'entendre, c'est Bobby Dreigis qui la raconte. Il est membre d'une première nation autochtone près de Yellowknife. Des touristes viennent du monde entier dans cette ville du nord du Canada. Leur but, voir les aurores boréales, ces voiles de lumière dans le ciel nocturne que l'on ne retrouve que dans les cercles polaires. Yellowknife, autoproclamée capitale mondiale des aurores boréales, entend réduire sa dépendance aux mines pour tourner son économie vers les lumières du Nord. Les aurores boréales du Grand Nord canadien, du rêve à la réalité, c'est un grand reportage de Léopold de Picot.
18 heures de voiture, des paysages sauvages à perte de vue, de la neige, beaucoup de sapins, et cette route, parfaitement entretenue, elle relie la grande ville de Calgary, dans l'ouest du Canada, à Yellowknife, dans les territoires du Nord-Ouest. C'est l'équivalent d'un Paris-Lisbonne, avec pour seul compagnon des bisons, des lapins blancs ou des renards argentés. Toutes les 4 à 5 heures, une station-service apparaît, seuls quelques routiers et des locaux, dans leur pick-up, s'arrêtent prendre leur café. Peu de monde sur les routes car la plupart des visiteurs de Yellowknife arrivent par les airs à l'aéroport. Il est situé à l'entrée de cette petite ville de 20 000 habitants. Température extérieure, moins 45 degrés Celsius. Le parking d'une cinquantaine de places est gelé. Un avion vient d'arriver, le hall est bondé. Mackenzie, 27 ans, et sa mère viennent de récupérer leurs valises et attendent leur taxi.
Nous espérons voir des aurores boréales. C'est un peu ce qui nous a amenés de Toronto jusqu'ici. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu voir. Cela fait partie de ma liste de choses à faire. J'aime l'espace et ce genre de choses, alors j'ai vraiment envie d'y jeter un coup d'œil. Nous espérons donc que le ciel sera clair et dégagé ce soir.
Mackenzie prévoit de rester 2 nuits sur place pour espérer voir des aurores. Les plus courageux prennent l'air dans les rues de Yellowknife, on les reconnaît à leur veste flambant neuve, toute rouge, la couleur fétiche d'une célèbre marque canadienne. Sun, 24 ans, voyage 2 semaines à travers l'Amérique du Nord.
Je vis dans la province de Guangdong, près d'Hong Kong, où il fait chaud toute l'année. Il fait toujours 25 degrés, donc on ne voit jamais de neige là-bas. J'ai déjà vu une aurore dans le vol vers Yellowknife et je compte bien en voir une sur le lac ce soir. Je suis fasciné par les aurores et les grandes terres couvertes de neige. J'ai réservé une excursion, ils vont nous emmener dans la campagne de Yellowknife. Ils nous ont équipés de vêtements chauds et un guide autochtone qui essaye de chasser les aurores va nous accompagner. Native guide trying to hunt the aurora with us.
Tous les jours, vers 20h, des navettes viennent emporter les touristes comme Sun à l'écart de la pollution lumineuse. Le minibus blanc du guide autochtone Bobby Dreigis attend devant l'immense hôtel Château Nova.
Le ciel était clair et froid aujourd'hui, mais il s'est réchauffé, il s'est couvert. C'est à cet endroit où j'ai installé mon campement que ma grand-mère est née. Tous les membres de nos communautés nous reconnaissent. Cet endroit est notre zone familiale. Nous sommes allés au Conseil des Anciens et ils nous ont donné toute une série de règles. Puis nous avons obtenu l'autorisation de construire le camp de touristes ici.
Pour atteindre le camp de Bobby, il faut prendre une motoneige. Les 4 touristes, 2 Mexicains et 2 Canadiennes sont aux anges. On traverse un lac gelé. Mais ce soir, le ciel est couvert. Bobby doit les occuper en espérant que les nuages partent.
Ici, c'était les satous qui viennent des montagnes. Ils apportaient des silex et des choses à troquer. Nous faisons du commerce avec eux là-bas. Notre territoire s'étend de ce côté-ci et les Clinchons sont de ce côté-là. Ils sont restés ici pendant longtemps, mais maintenant ils sont partis à cause de ce fort, de ce poste de traite qui a été installé là. Ils sont descendus un peu plus bas.
Bobby enchaîne les anecdotes sans se vexer des touristes peu bavards qui sortent pour espérer voir les aurores. Le décalage culturel, il y est habitué.
Il y avait cette dame de Hong Kong, j'ai dit qu'il y avait 45 000 personnes dans les territoires du Nord-Ouest, elle a rigolé. Je lui ai demandé pourquoi, elle m'a répondu, à Hong Kong, un immeuble d'habitation, ça fait 45 000 personnes. N'oubliez pas de vérifier à l'extérieur, les aurores vont d'est en ouest. Alors si vous sortez, regardez par là.
Au fil de la nuit, malgré les tambours et les histoires contées par Bobby, la déception des touristes se lit sur leur visage. Ils ne verront pas d'aurore ce soir. Une déception compréhensible. Certains touristes payent cher pour venir à Yellowknife, des milliers d'euros pour quelques jours. La ville s'est autoproclamée capitale mondiale des aurores et elle attire désormais les convoitises de nombreux tour opérateurs, parfois étrangers. Dans les rues, des panneaux traduits dans de nombreuses langues vantent les activités de chacun. Et le lendemain, dans un café de la ville, Joey Bailey fulmine.
Je suis le fondateur et le propriétaire de North Star Adventure, détenu à 100% par des autochtones.
Il était l'un des premiers à lancer son entreprise spécialisée dans les aurores et il se relève tout juste de la pandémie.
Nous étions la seule juridiction d'Amérique du Nord fermée. C'était désastreux. Le Yukon était ouvert, la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, tout était ouvert. Les territoires du Nord-Ouest sont restés fermés pendant 2 ans, pas de tour. Chaque mois, la facture s'alourdit. Des dépenses. Nous avions 3 grands tipis et des tentes, tous vendus. Notre bus était la dernière chose qui nous restait à vendre et soudain, le ministre a dit « Ok, on rouvre tout le 1er mars. » Nous avons survécu. Il y a de nombreux tours opérateurs qui ne sont pas de Yellowknife. Ils ne sont même pas du Canada et ils viennent ici au début de la saison des aurores. Ils amènent leurs travailleurs, ils organisent toutes les excursions, prennent tout l'argent, les travailleurs avec, et repartent à la fin de la saison. Lorsque j'ai rejoint l'association en 2007, j'étais la 4e société de tourisme. Et aujourd'hui, il y en a plus de 120 enregistrés. J'ai parlé au gouvernement à plusieurs reprises. Ils disent, je cite, « c'est bon pour l'économie ». Non, ce n'est pas le cas. C'est bon pour l'économie, bon pour les hôtels et les restaurants, mais pas bon pour les entreprises locales. J'aime rappeler que c'est nous qui avons commencé à miser sur les aurores. Nous avons mis Yellowknife sur une carte, comme un endroit à voir pour les aurores. Et le gouvernement ne le reconnaît même pas.
Pour Joey, donner les moyens aux autochtones de s'occuper du tourisme, les protéger de la concurrence extérieure, c'est aussi un moyen de préserver l'environnement.
Comme les mines de diamants commencent à fermer, ils commencent à se rendre compte que nous pouvons associer, coordonner le tourisme aux efforts de conservation et à la gestion de la faune et de la flore parce que le changement climatique est énorme. Il a un impact sur la Terre. Or, les meilleures personnes pour prendre soin de la Terre, c'est nous, les peuples indigènes. Je commence à voir plus de peuples indigènes invités dans les conseils scientifiques et universitaires pour le changement climatique et la conservation. Ils commencent enfin à nous écouter.
Pour observer les aurores, Yellowknife a un potentiel énorme. Le guide touristique aime le rappeler, la situation géographique de la ville est unique au monde.
Premièrement, nous avons plus de nuits claires que n'importe quel autre endroit dans le monde. Deuxièmement, l'ovale des aurores vient juste au-dessus de Yellowknife, ce qui fait que nous, on l'appelle l'ovale au cou douloureux. Parce que quand vous êtes au Yukon ou en Alaska, vous devez regarder vers le nord du ciel. Mais à Yellowknife, il se trouve déjà juste au-dessus de nos têtes.
Au moins 9 mois dans l'année, à Yellowknife, si le ciel est dégagé, un visiteur a 98% de chances de les voir avant que le soleil de minuit durant l'été ne vienne éteindre la nuit. Ce spectacle du quotidien entraîne des vocations pour certains habitants, comme les Aurora Trackers, un groupe Facebook de photographes du coin. Ils y partagent leurs meilleures photographies.
Je suis Cristiano Pereira, je suis portugais d'origine. J'ai déménagé au Canada il y a presque 7-8 ans. J'ai déjà habité en plusieurs endroits du Canada, mais en 2019, Je suis venu ici pour la première fois à Yellowknife et j'ai tout de suite tombé amoureux d'ici, du Grand Nord, et surtout de le ciel d'ici. De mi-août à fin avril, on peut avoir les aurores boréales toutes les nuits, si le ciel est dégagé. Et je trouve ça passionnant. Il y a des gens qui aiment aller à la pêche, il y a des autres qui aiment chasser les animaux, de faire du surf, n'importe quoi. Moi, j'adore sortir et chasser les aurores à moins 40 ou à moins 30. Je trouve ça un peu extrême, mais ça me fait sentir en vie.
Sortir dans le froid, profiter du silence et du spectacle des aurores, Cristiano les connaît si bien qu'il en a même des préférés.
C'est ce qu'on appelle, en anglais, ils appellent ça le break-up. C'est quand l'aurore explose, elle s'élargit complètement dans le ciel. Et après, c'est complètement des formes très abstraites, tu vois. Mais c'est vraiment comme une peinture dynamique dans le ciel, une peinture qui bouge. Et je trouve ça impressionnant et passionnant.
Pour la soirée, on a pris rendez-vous avec Lenora Barrett, une des amies photographes de Cristiano.
Nous n'utilisons notre ceinture de sécurité que lorsque nous sommes en ville. Une fois sur le lac, vous pourrez enlever votre ceinture et votre casque.
Son mari, Alain, conduit un véhicule étrange, une sorte de cabine de grue montée sur chenilles. On traverse directement sur le lac de Yellowknife, dont les routes de glace relient entre elles les nombreuses îles.
Oh, c'est une belle nuit, très claire.
Avec son compagnon, Lenora a construit une petite cabane en lisière de forêt sur les berges de cet immense lac. Un endroit parfait pour photographier les aurores.
Mon mari et moi allions toujours en randonnée avec notre chien ou autre et je prenais des photos que je partageais sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Beaucoup de gens me disaient que c'était très beau et ça m'a fait réaliser que j'avais peut-être un talent dont je n'étais pas vraiment consciente. Alan m'a donc acheté mon premier appareil photo et j'ai pris des cours. Je ne me lasse jamais de voir les aurores. Je suis toujours excitée quand j'en vois et je les décris comme un flocon de neige. Aucun spectacle n'est identique à un autre. Je ne pense pas que l'on puisse s'en lasser un jour. C'est comme si on se lassait d'une chute d'eau ou d'un coucher de soleil. On ne peut pas, c'est magnifique à chaque fois.
Pendant plusieurs heures, au bord du feu, on profite du moment en mangeant, on discute, bref, on attend les aurores. Lenora est désormais jeune retraitée. Elle en profite pour vendre des photos et elle a beaucoup d'anecdotes à raconter.
Et donc, un homme de Toronto m'avait contacté et il me disait qu'il voulait demander sa petite amie en mariage sous les aurores. Elle n'était pas au courant. Donc là, il s'approche et me dit « bonjour ». Et je dis « oh, salut ». Et il me dit « vous prenez des photos d'aurores ?» Je lui dis « oui ». Et il dit « j'essaye aussi de prendre des photos. Pouvez-vous m'aider avec mon appareil photo ?» Elle, elle est gênée, elle dit « non, arrête ». Et puis très vite, je lui dis « vous savez quoi? Pourquoi je ne prendrai pas une photo de vous ?» Et puis il dit « oh, mon lacet est défait ». Il se met à genoux et la fille se tient là, elle le regarde, elle est choquée et je suis en train de prendre plein de photos. Et elle ne comprend pas ce qui se passe, elle ne savait pas que c'était un coup monté.
Lenora parle, mais jette aussi régulièrement un coup d'œil sur son téléphone vers la webcam de Yellowknife. Elle est tournée vers le ciel nocturne. Soudain, un léger éclair vert apparaît sur son téléphone. Il faut s'équiper pour affronter le froid nocturne.
C'est très important d'avoir le bon équipement, sinon ça peut être très dangereux. Garder son cou au chaud, ses mains au chaud, sa tête au chaud. J'utilise aussi des sortes de petites chaufferettes. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous les faites craquer et elles font un peu de chaleur pour vos mains. La sécurité, c'est vraiment important quand on a ce genre de température parce que des engelures peuvent survenir en quelques minutes. J'ai l'impression qu'elle devrait être là. Quand j'étais enfant, je croyais qu'en sifflant et en frottant les mains l'une contre l'autre, c'était censé faire danser les aurores. C'est mignon, hein ?
Yeah, it's coming. Here.
Oui, elle arrive. Elle arrive.
Yeah, it's really showing up.
Oui, elle est vraiment en train d'arriver maintenant. Regarde ça.
Look at that.
There's a little bit of. Il y a un petit pic là-haut. Si vous regardez directement par là, elles sont bien lentes. Ce sont les aurores parfaites pour la photo. Elles ne bougent pas trop vite. Si elles se déplacent trop vite, elles sont difficiles à photographier, mais celles-ci sont parfaites.
Ce qui marque avec les aurores, c'est la rapidité à laquelle elles apparaissent. C'est un voile vert, lointain, un peu diffus, et soudain, il explose, des traits de lumière verte, rouge, violette. Les aurores percent littéralement le ciel. Elles sont provoquées par le vent solaire, ces particules projetées par notre étoile. Ces ions et électrons sont redirigés vers les pôles par le champ magnétique de la Terre, et ils réagissent au contact de l'atmosphère pour donner naissance aux aurores. Lenora sourit devant mon air ébahi.
C'est ce que j'aime quand les gens viennent ici. Parce que Yellowknife, vous savez, c'est froid, c'est isolé. Nous n'avons pas tout ce qu'ont les grandes villes. On fait avec, vous savez. C'est un petit coin de paradis.
De ce petit coin de paradis, Yellowknife essaie de faire une force économique, profitant l'été de son lac et de ses forêts, l'hiver de ses activités sur glace. Aujourd'hui, un cinquième de la richesse annuelle de la région provient de l'exploitation minière et le tourisme, c'est 4 fois moins, seulement 5%, malgré son énorme potentiel. Donalie Demarque espère changer ça. Elle est directrice de l'agence gouvernementale du tourisme dans les territoires du Nord-Ouest.
Nous avons quelques-uns des meilleurs circuits de canoë du monde, les meilleures pêches du monde avec des prises records et une remise à l'eau des poissons dans nos lacs, quelques-uns des plus beaux fleuves et paysages que vous verrez dans le monde. Mais ce que les territoires du Nord-Ouest ont de mieux à offrir, ce sont leurs habitants. La riche culture que nous avons, notre culture indigène, les gens qui appellent les territoires du Nord-Ouest chez eux. Si vous parlez à nos visiteurs, ils vous parleront sans doute des expériences qu'ils ont eues sur l'eau ou sur la terre, toutes les grandes choses qu'ils ont eu l'occasion de voir, mais ils parleront tous des gens qu'ils ont pu rencontrer.
Malgré les critiques des guides autochtones, la directrice du tourisme n'est pas contre attirer quelques tour opérateurs extérieurs à la région.
Je pense qu'un entre-deux est bon pour les territoires du Nord-Ouest et je pense que c'est bon pour nos résidents. Parfois, les gens arrivent, ils ont des idées différentes et apportent des choses différentes à la table. En revanche, si vous êtes un résident, que vous avez grandi ici et que vous y avez vécu toute votre vie, vous avez généralement une meilleure compréhension de ce dont vous parlez. Mais cela ne veut pas dire que quelqu'un ne peut pas venir s'installer dans les territoires du Nord-Ouest, y investir et faire croître l'économie en ouvrant une entreprise ici. Ils sont les bienvenus.
Direction le musée de Yellowknife, plutôt fréquenté. La ville y expose les modes de vie des premiers habitants de la région, sa faune arctique, des ours polaires aux caribous. Amrit et Anish sont venus directement d'Inde pour voir les aurores. Un voyage à plus de 5 000 $ pour seulement 5 jours, mais ils ne veulent pas repartir sans en savoir plus sur les territoires du Nord-Ouest.
Notre chauffeur d'hier nous a fait visiter la ville de Yellowknife et nous a parlé du peuple indigène Dene, de la ville et de tout le reste, des moyens de subsistance des gens d'ici. Je pense que les visiteurs ne devraient pas s'intéresser qu'aux aurores, mais aussi à l'histoire de cette ville. Elle est si belle. Nous venons de parler à une femme qui fabrique des chaussures artisanales. Personnellement, j'aime l'histoire et je visite des endroits pour en apprendre davantage sur leur passé. L'endroit d'où je viens, en Inde, est un lieu historique. Alors oui, j'aime ça. Il ne faut donc pas se contenter de visiter les aurores. Il faut visiter l'ensemble de Yellowknife.
Reste un enjeu majeur et personne, de Donalie à Joey, ne l'a relevé, l'impact carbone direct de ce tourisme croissant. Pourtant, des centaines de touristes comme Amrit et Anish débarquent tous les jours de l'aéroport de Yellowknife, souvent pour moins de 3 nuits. Par moins 40 degrés, la ville surchauffe ses hôtels, certains jusqu'à 24 degrés. Aucune étude n'a relevé l'empreinte carbone d'un séjour pas si loin du pôle Nord, mais une chose est sûre, boosté aux images de rêve sur les réseaux sociaux, Yellowknife illustre les enjeux du tourisme actuel, réussir à développer durablement les communautés dans un monde qui se réchauffe à vitesse grand V.
Les aurores boréales du Grand Nord canadien, du rêve à la réalité, un grand reportage de Léopold Le Picot, réalisation David Brocouet.